pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique sur Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 29 novembre 2022 et aujourd'hui nous vous proposons une émission consacrée aux rencontres sciences, médias et société organisées les 25 et 26 novembre dernier par Radio Phoenix.
Deux jours d'échanges autour de la pratique de la médiation scientifique, des questions sciences, société et de l'éducation aux médias et l'information.
L'occasion pour nous d'échanger avec Hervé Lecronier, enseignant-chercheur et éditeur chez CEF Éditions, mais aussi Michel Dubois, sociologue, directeur de recherche au CNRS.
Mais avant, c'est les infos sciences de la semaine.
Elle avait répondu à nos questions le mois dernier, notamment en tant que seule femme française à être allée dans l'espace. Claudie Aigneret ne sera plus seule puisque Sophie Adeno deviendrait elle aussi astronaute.
Et oui Simon, l'ESA, l'agence spatiale européenne, a dévoilé ce mercredi 23 novembre sa nouvelle formation d'astronautes et parmi elles une française, Cocorico. Sophie Adeno, 40 ans, pilote d'hélicoptère de l'armée de l'air, devient la deuxième française à obtenir le prestigieux titre d'astronaute. 23 000 candidats au départ, elle s'en sort aux côtés de 4 autres personnes.
Mais alors pourquoi est-ce que c'est elle qui a été retenue?
Il faut dire que Madame Adeno affiche un CV impressionnant, lieutenant-colonel de l'armée de l'air et de l'espace, ingénieur, passé par l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse. Pour l'instant, pas d'informations pour sa première mission. Elle va maintenant commencer sa formation qu'on appelle Basic Training en Allemagne début 2023. Le temps d'attente pour faire sa première mission en orbite est généralement autour de 5 années. On attend donc de voir Sophie Adeno d'ici 2027 poser peut-être ses pas sur la Lune. Qui sait, rendez-vous dans 5 ans. Il n'était pas entré en éruption depuis 40 ans, le plus grand volcan actif du monde crache de nouveau des cendres depuis dimanche.
Et oui, le Mauna Loa, un géant hawaïen culminant à 4169 mètres, vient de mettre un terme à sa plus longue période éruptive de son histoire. En effet, depuis dimanche, il vit sa première éruption depuis 1984. À l'époque, la lave avait coulé pendant pas moins de 22 jours, formant ainsi d'importantes coulées qui s'étaient échouées à seulement 7 km de la ville d'Ilo.
Et d'ailleurs, quelles sont les menaces qui planent face à cette éruption?
Alors heureusement, malgré l'aspect spectaculaire de l'éruption, rien de concret ne menace les habitants les plus proches. Les autorités n'ont pour le moment ordonné aucune évacuation, mais appellent à la prudence. Les cendres et les débris accumulés autour du volcan pourraient notamment créer des gènes respiratoires chez les habitants. La toxoplasmose, cette maladie redoutée par les femmes enceintes, aurait des conséquences insolites chez les loups.
La toxoplasmose, pour restituer, c'est une maladie causée par un parasite qui est transmis par un félin. Les symptômes sont souvent minimes, sauf chez les personnes immunodéprimées ou les fœtus. On conseille donc aux femmes enceintes d'éviter le contact avec les chats ou de manger de la viande mal cuite.
Mais alors quel rapport avec les loups ?
Eh bien étrangement, ce parasite pourrait permettre aux loups de devenir chefs de meute. Les animaux infectés par la Toxoplasma gondii sont plus agressifs, plus indépendants, plus aventuriers, des traits de caractère qui désignent souvent le chef de meute. Un loup aurait 46 fois plus de chances d'être un alpha s'il est infecté. En fait, ce parasite fait naître littéralement des troubles psychologiques chez les animaux. Des chercheurs ont vu des souris ne plus avoir peur des chats ou des hyènes rentrer sur le territoire de Lyon. Du côté des humains, un tiers d'entre nous serait infecté par la toxoplasmose. Alors être infecté ne fait pas vous des mal alpha, mais les chercheurs travaille sur une potentielle corrélation entre infection et troubles psychiatriques. Pas de résultat pour l'instant, cette bactérie reste encore mystérieuse. Du CO2 découvert pour la première fois dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est la dernière découverte du télescope James Webb.
Et oui, le désormais célèbre télescope qui nous livre d'impressionnantes images de l'espace vient de réussir à identifier 6 espèces chimiques présentes sur WASP-39b, une exoplanète située à 700 années-lumière de la Terre. Et parmi ces 6 espèces, on retrouve justement du dioxyde de carbone.
Mais ce n'est pas la seule surprise que James Webb a pu observer sur WASP-39b.
Et non, la récente observation du télescope a également pu montrer la présence de dioxyde de soufre qui témoigne du phénomène que l'on appelle photochimie. En gros, c'est la chimie initiée par le rayonnement d'une étoile et qui sur Terre a permis la formation de la couche d'ozone et donc de la vie. Des similitudes étonnantes donc avec notre planète, d'autant plus que WASP-39b est une planète gazeuse. Si vous ne voulez pas produire trop de déchets plastiques, on vous conseille de manger votre bouteille.
Ça peut paraître incongru, mais c'est pourtant la solution qu'a trouvée la start-up Notpla, cofondée par un Français. Le principe est simple, créer des emballages comestibles à partir d'algues naturellement biodégradables. Cela se présente sous la forme de bulles, nommées UO, qui ont suscité la curiosité d'investisseurs. L'entreprise compte aujourd'hui 60 salariés et prévoit de produire ces bulles comestibles à l'échelle internationale. La bulle est grosse comme une tomate cerise et a la texture d'un bonbon gélatineux.
Mais cette entreprise ne se limite pas qu'à des bulles d'eau.
Non, les emballages plastiques ne se limitent pas qu'au liquide et la start-up Notpla se lance le défi de trouver des alternatives pour tous nos aliments du quotidien. Dernière innovation en date, c'est la création d'un emballage pour les produits secs comme les pâtes. En plus de cela, la récolte d'algues pour réduire la consommation plastique est simple et rapide. Cela ne nécessite pas d'intervention humaine. L'enjeu est de taille puisqu'on estime que d'ici 2060, la quantité de déchets plastiques va tripler pour atteindre le milliard de tonnes par an, dont une grande partie finit dans les océans et menace les espèces marines.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes actuellement aux rencontres SMS, Sciences, Médias et Sociétés organisées par Radio Phoenix, au programme des tables rondes, des discussions et des ateliers à l'occasion de cette journée qui vient questionner la médiation scientifique. Nous recevons à notre micro Hervé Lecronier, enseignant-chercheur, éditeur chez CF, bonjour, et Michel Debois, sociologue, directeur de recherche au CNRS, bonjour.
Bonjour, Michel Dubois, hein, pas Michel, Michel Dubois. C'est une belle tentative en tout cas.
On fait attention, Michel Dubois. Pour commencer, un petit point vocabulaire, qu'est-ce que c'est la médiation scientifique, la vulgarisation scientifique et à quoi ça sert ?
Est-ce qu'il y a une différence aussi entre ces deux termes qui sont parfois utilisés à différents niveaux ?
Alors, aucun de nous deux n'est expert de la question, mais c'est précisément parce qu'on n'est pas expert qu'on va pouvoir s'exprimer en toute liberté sur cette question, effectivement, la définition de la médiation. On utilisait, en tout cas en France, dans les années 70-80, beaucoup le terme de vulgarisation scientifique. Et également, dans les pays anglo-saxons, on parle plus de la popularisation des sciences. Et progressivement, effectivement, c'est diffusé, c'est établi cette notion de médiation scientifique pour décrire, en fait, une grande variété d'acteurs en fait, qui sont associés, non plus simplement, on pourrait dire, une forme de communication un petit peu top-down, d'une communication qui serait cadrée et qui viendrait remplir une sorte de gap, de déficit de connaissances qu'il faudrait pouvoir combler d'une façon ou d'une autre, mais pour créer finalement de nouvelles formes d'engagement, à la fois pour les acteurs scientifiques, parce que souvent les acteurs de la médiation scientifique sont eux-mêmes, ont eux-mêmes un background, parfois jusqu'en licence ou master dans les sciences et se réinvestissent dans ces actions de médiation. Et puis également en créant des lieux, des interfaces, des espaces d'interface. Et donc, plutôt qu'un élément de médiation, c'est aussi, il faut y voir un élément d'intermédiation, créer des situations d'interaction dans lesquelles, finalement, la culture scientifique devient un enjeu de discussion et de mise en controverse.
Effectivement, j'aurais même tendance à parler de culture scientifique, au sens où c'est quelque chose aujourd'hui dans lequel nous sommes plongés. Aucun débat de société, aucun débat démocratique aujourd'hui n'a pas un aspect qui est lié aux recherches scientifiques, à une approche scientifique du monde, de la nature, mais aussi des sciences humaines, hein, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on ne sacralise pas le scientifique, parce qu'en plus, c'est toujours un homme, vous savez, et qui aurait raison contre la société, contre ceux qui ont des opinions, tout simplement, et que lui serait le seul détenteur de la raison, et en même temps qu'on comprenne pourquoi la manière dont il travaille lui donne la capacité à parler à la société. Sa manière d'avoir de réflexivité, c'est-à-dire de se poser des questions sur lui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi il réfléchit à ce sujet-là. Avant même de savoir si c'est intéressant, pourquoi il le fait. Et donc, ça va lui donner une approche de son propre travail. Et donc, cette compréhension de comment et pourquoi un scientifique va faire du travail va permettre à la société d'avoir un nouveau regard sur la place de ce qui est scientifique et en fait de ce qui est un consensus scientifique. Si on regarde les événements récents, notamment ce qui s'est passé avec l'épidémie du Covid, c'est qu'on a eu affaire à des invectives scientifiques, à des chercheurs qui se mettaient d'un seul coup à insulter le reste de la population en laissant des traces assez profondes dans la société, quoi. Donc là, on a quelque chose auquel il nous faut réfléchir, c'est pourquoi un chercheur peut dire quelque chose ? Voilà, je ne sais pas si tu apprécies ce...
Oui, enfin, je pense que effectivement la situation de crise, les situations d'urgence sont souvent des moments un petit peu de moments réflexifs. C'est-à-dire à la fois il faut être dans l'urgence, être dans l'action, et puis immédiatement après l'action, on se pose la question est-ce qu'on a agi correctement et est-ce qu'on a finalement produit les effets attendus de par rapport à ce qu'étaient les objectifs initiaux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement tout le monde a pu prendre conscience avec la crise Covid finalement de l'impréparation d'un certain nombre de collègues du point de vue de la diffusion de l'information scientifique, mais également l'impréparation aussi d'une partie des acteurs de l'information scientifique. Je pense qu'il suffit d'échanger avec les journalistes et les journalistes scientifiques pour s'apercevoir qu'une grande partie des comités d'interaction n'étaient pas préparés finalement à accorder cette place à l'information scientifique. Et donc, on a vu pendant cette période finalement se renégocier la place des journalistes scientifiques dans les comités de rédaction. Là où le journaliste scientifique était souvent assis au fond de la salle comme un élément voilà, qu'on allait consulter de temps en temps sur un tel ou tel sujet, finalement il s'est rapproché du rédac-chef et finalement pendant toute une période, aucun sujet ne pouvait passer sans que ce journaliste scientifique puisse dire un mot par rapport à ça. Et donc tout le, sans doute l'enjeu, c'est aujourd'hui d'essayer de maintenir cette place, de maintenir cette situation une fois que l'urgence retombe. Est-ce que le journaliste scientifique va retourner au fond de la salle ou est-ce qu'il continue à garder une place centrale?
Cette diffusion de la culture scientifique, elle est elle-même au cœur du débat démocratique, comme au final n'importe quel sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une démocratie saine sans une diffusion massive et claire de ce qu'est la science en général?
Si on se reporte au XVIIIe siècle, un des premiers actes politiques qui a été fait, qui nous a amené à la Révolution, c'est d'écrire une encyclopédie. C'est donc bien, effectivement, d'essayer de transmettre ce qui était à l'époque.
Diffusion massive du savoir.
Voilà. Donc là, il y a là quelque chose qui est vraiment important.
Oui, il y a à l'évidence un rapport compliqué, on va dire, entre les dimensions de la science et du politique. D'une certaine façon, à chaque fois que le politique se saisit de la science, il y a toujours ce doute de l'instrumentalisation de la science. Et réciproquement, la science a besoin de se rapprocher du politique, parfois pour peser sur les choix, et sur le choix notamment des autorités publiques. On a vu cette danse un peu étrange entre le comité scientifique
belgique
et les différentes décisions qui ont été prises par les autorités pendant cette période Covid. Donc je dirais que ces liens science-politique sont toujours compliqués, mais qu'à chaque fois que finalement le politique se saisit des enjeux de culture scientifique, il définit bien finalement une condition, ou du moins un objectif général qui est de participer à la production d'une sorte de citoyen qui serait un citoyen éclairé, fondé en raison quelque part sur ses choix et qui puisse donner une opinion ou un avis qui soit pas simplement arbitraire, fondé sur les rationalités, les sentiments, les émotions, mais qui soient fondées en raison et sur la base donc, d'informations qui soient des informations fiables. Donc il y a dans tout rapport sur la culture scientifique, tout rapport parlementaire sur la culture scientifique, il y a toujours clairement cet enjeu, un enjeu de société. Tout ce travail autour de la culture scientifique a à l'évidence une dimension proprement politique.
Vous avez, Hervé Le Cronier, parlé de transmission de l'information. Aujourd'hui, ça passe surtout par le numérique. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont plus touchés par ces informations scientifiques et quelles peuvent être un peu les dérives qui peuvent venir de ce nouveau format, le numérique ?
Je pense que globalement, le numérique nous permet de toucher les gens qui veulent réfléchir. Pour le reste, c'est la télévision. N'oubliez pas que ça reste le média majoritaire qui forme les opinions. Il y a eu un grand débat suite à l'élection de Donald Trump pour savoir s'il était un sous-produit des médias sociaux ou... Mais non, toutes les études scientifiques, les sociologues qui ont travaillé là-dessus ont dit « Mais non, c'est un sous-produit de Fox News. C'était une vedette de télé-réalité auparavant. » Enfin bon, bref. Aujourd'hui, il y a tendance à dire « Dès qu'il y a un problème, c'est la faute aux réseaux sociaux. » Ben non, c'est pas si simple que ça. Après... Pour des gens qui veulent s'informer vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux d'avoir accès aux articles scientifiques, d'avoir accès à des tas de présentations, etc. Ce qui nous manque peut-être, c'est la culture scientifique, c'est-à-dire celle qui va nous permettre, parmi l'ensemble de ces informations, d'être capable de se faire une opinion. D'autant que on apprend la science à l'école très souvent comme une vérité qui existe déjà et qui nous tombe dessus. Or, dès qu'on pratique la science, c'est des controverses. C'est on pense ceci, d'autres pensent cela, et on va trouver des voies jusqu'à ce que, dans un groupe donné qui travaille sur un sujet donné, il y ait un consensus. Par exemple, sur le climat, il est clair maintenant que le consensus, c'est que c'est à cause de l'activité humaine qu'il y a une modification climatique. Bon, c'est un consensus qui s'est fait dans cette communauté-là et qui, après, a été transmis à l'ensemble de la société. Mais pendant tout un temps, rappelez-vous quand même, nous avons eu un ministre de la Recherche qui était un climato-sceptique. Donc voilà, pendant tout un temps, c'était de l'ordre de la controverse. Donc, il nous faut apprendre que la controverse est nécessaire, mais qu'en même temps, cette controverse doit être pilotée par un désir d'en sortir. C'est un désir de trouver quel est le consensus réel. Et le consensus réel, ce n'est pas un consensus préalable, qui est la manière dont le politique souvent voit le consensus. Le politique, quelle que soit d'ailleurs son orientation politique, pense que c'est autour de lui que doit se faire le consensus. Parce qu'il a été élu, parce qu'il est président, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela... C'est jamais aussi simple que ça, surtout pour un sociologue comme Michel.
Oui, je te rejoins totalement sur ce point de conserver à l'esprit cet écosystème des médias. C'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup sur les réseaux, mais les réseaux sont simplement un élément parmi d'autres. Et lorsqu'on interroge un certain nombre d'enquêtés, que ce soit en France ou ailleurs, lorsqu'on leur demande un petit peu où est leur source d'information, très souvent c'est effectivement les médias traditionnels, la télévision, la radio. Alors après, il y a aussi la consultation des moteurs de recherche, Google Actualité, elle a regardé une capsule vidéo sur YouTube. Et donc, il faut avoir en tête toute cette diversification. Après, sur la question, je pense, de la numérisation, c'est-à-dire l'ère numérique, la science à l'ère numérique, elle va de pair également avec une sorte d'éthique de la science ouverte. C'est-à-dire que très souvent, il y a cette idée que la numérisation des savoirs rend accessible, ouvre finalement des catalogues qui étaient inaccessibles, des bibliothèques qui étaient inaccessibles, et finalement, c'est à portée de clic. Le problème, c'est bien sûr, c'est que c'est une illusion qu'on pourrait dire, qui peut avoir une dimension productive jusqu'à un certain stade, mais il est un petit peu naïf d'imaginer que parce que les savoirs sont à portée de clic, ils soient réellement accessibles en réalité et compréhensibles pour l'ensemble de la population. Donc il y a tout ce travail finalement, pas simplement d'ouvrir les accès numériques, mais il faut aussi accompagner ces ouvertures avec tout un travail d'explication parce que bien entendu, personne n'est capable de lire tel ou tel article comme ça, comme s'il ne peut pas s'improviser biologiste, il ne peut pas s'improviser physicien. Tous ces savoirs sont accessibles, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils soient compréhensible en tant que tel.
Oui, mais le fait qu'il soit accessible est quand même un progrès absolument extraordinaire, déjà. Il faut partir de ça. Ensuite, il y a un mythe dans la structure même, dans la construction même des réseaux numériques. C'est le mythe de l'individu qui accède à l'information. La réalité, non, c'est des groupes qui accèdent à l'information et qui le retransmettent à des individus, cette fameuse médiation dont vous avez parlé au début. Et donc le fait que la science soit ouverte est un outil pas tant pour l'individu appelé à juger par lui-même, qui est le mythe d'origine, le mythe fondateur un peu de l'Internet, hein, mais que l'individu va participer de groupes qui vont interpréter pour lui, avec tous les dangers. Parce qu'il y a ceux qui interprètent bien, il y a ceux qui mésinterprètent, et ceux qui mésinterprètent par erreur, et ceux qui mésinterprètent par volonté, c'est-à-dire pour truquer en fait les résultats scientifiques. Nous venons d'en avoir 2 ans d'une expérience ad libitum. Mmh.
Oui, et je pense que de ce point de vue-là, on a sans doute encore un déficit de connaissances sur justement ces effets de structuration en ligne. Il y a eu quelques travaux sur différents types de forums, mais beaucoup de personnes qui finalement essaient de comprendre ce qui se passe sur leur réseau ont cette tendance un petit peu fâcheuse de transposer ce qu'ils connaissent sur une population générale, une population hors réseau, sur ce qui se passe mécaniquement sur le réseau. Et effectivement, les logiques de sociabilité, les logiques de circulation sont assez différentes. Et ce qu'on voit très souvent sur les réseaux, ce sont des minorités plutôt bruyantes, plutôt mobilisées, plutôt clivante également, et la logique même de fonctionnement de ces réseaux finalement tend à renforcer ces logiques de clivage et d'entre-soi. Donc il est évident qu'il faut, sans doute encore avancer pas mal sur la compréhension de ces réseaux pour en saisir les différents enjeux du point de vue de la circulation de l'information scientifique.
C'est un peu ces fameuses bulles informatiques dont on parle, où les personnes sont vraiment en réseau, entre-soi, et en fait finalement ils restent un peu dans la même information, dans l'algorithme voilà, des réseaux sociaux, et ils ne sont confrontés qu'aux informations qu'ils cherchent finalement, c'est quoi les solutions pour sortir de ces bulles en fait ?
Oui, alors c'est pas simplement l'entre-soi, j'ai l'impression qu'il y a plus que l'entre-soi, c'est à la fois l'entre-soi, une forme d'altérité radicale, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on on trouve des situations de polarisation extrême.
On s'écarte du coup de la notion de consensus que vous évoquiez tout à l'heure.
Et effectivement, on se nourrit de mise en controverse, on se nourrit de, effectivement, de différentes formes d'indignation croisées. Voilà. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ça soit un média qui soit nécessairement déconsidéré, notamment du point de vue des scientifiques. On a fait une enquête tout récemment sur justement la perception des réseaux scientifiques auprès des scientifiques. Et il y a encore un nombre conséquent de collègues, dans mon souvenir c'était 6 scientifiques sur 10 qu'on avait interrogés, qui voient dans ces réseaux sociaux vraiment une nouvelle opportunité pour la communication scientifique. Mais clairement, à cette opportunité correspond des enjeux de contrôle, des régulations. Il y a tout un débat en France, un débat récurrent sur le fait, faut-il ou pas mettre en place des instances qui soient des instances de régulation, de contrôle, de la qualité même de l'information scientifique qui circule. Quelque chose qui relèverait un petit peu du fact-checking des journalistes, mais transposé sur les dimensions numériques. Et on a eu une commission, me semble-t-il, qui a rendu un rapport il n'y a pas très longtemps sur ce sujet.
Et le gros problème est qu'une idée nouvelle commence toujours par être minoritaire. Et ça, c'est la logique de toute idée nouvelle. Einstein était minoritaire avant d'obtenir la majorité du consensus scientifique. Donc, est-ce que une forme de régulation qui marginaliserait ces idées minoritaires au départ serait une bonne forme de préparer l'avenir ? J'en doute parfois.
Oui, non, je pense qu'on a tous plus ou moins en tête cette nécessité absolument de ne pas étouffer la créativité, de ne pas étouffer l'imagination, de ne pas étouffer ce qui fait un petit peu l'étincelle de la recherche scientifique. Et il faut pouvoir justement laisser s'exprimer et donc donner des marges de communication qui soient. Et donc personne, à mon avis, n'a vraiment plaidé pour cet étouffoir.
Tu dis « on a tous », je pense, parmi les scientifiques, oui. Mais malheureusement, les gens qui posent une régulation comme ça ne sont pas tous des scientifiques.
Oui, c'est un débat qui a des composantes à la fois politiques, scientifiques, également il y a un certain nombre de parties prenantes du monde de l'industrie qui s'intéressent beaucoup à cette communication autour de l'innovation technologique, et on voit effectivement un certain nombre de lobbyistes et d'influenceurs qui sont très présents, là encore sur les réseaux sociaux, et qui portent aussi des projets qui ont parfois été testés dans d'autres pays. Donc il y a tout un travail critique à faire par rapport à ça, mais en même temps on ne peut pas dire, à mon sens, et moi j'étais vraiment partie prenante, enfin prise à partie parfois même sur Internet, dans ce type de situation, on ne peut pas faire comme si la question de la désinformation sur les réseaux sociaux était une fausse question. Il y a sans doute un vrai sujet et il faut simplement trouver une façon originale de résoudre ce problème.
Je voulais rebondir là-dessus en disant qu'il faut considérer, si on veut, comment les réseaux sociaux, comment les médias numériques, plus généralement, favorisent l'émergence de nouveaux leaders. De nouveaux leaders d'opinion, que ce soit dans des opinions scientifiques, etc., ou politiques, ou culturelles, ou dans tous les domaines. Et l'émergence de ces nouveaux leaders qui connaissent bien, qui savent manipuler, ce que tu as appelé les influenceurs, qu'effectivement, c'est des gens qui savent bien utiliser la structure même du réseau, donc qui possèdent ce que moi j'appelle la culture numérique, un peu en rebond de ce que je disais tout à l'heure, être la culture scientifique, une culture spéciale de l'usage, du connaissance du fonctionnement, de son économie, de ce qui marche, de sa sémiologie, des médias sociaux. Et ceux qui savent ça deviennent des nouveaux leaders d'opinion. Le problème, c'est qu'il est plus facile sur ces réseaux-là, d'être un leader d'opinion quand on a des idées très tranchées, qu'on dit que ces idées sont contraires à la société, qu'on vous étouffe, on vous empêche de parler, on vous censure, etc. Ça marche à tous les coups. Et donc, on a une difficulté à faire émerger, en fait, dans le cadre de ces nouveaux leaders, de ces nouveaux influenceurs, des gens qui, par ailleurs, seraient des scientifiques ou des gens des démocrates ou des gens qui... Enfin, etc. Une espèce d'autre... Quand on regarde la presse, quand on regarde tous les autres médias, il y a des médias de droite et des médias de gauche, il y a des journalistes de droite et des journalistes de gauche. On le sait, quelque part, on a des points de repère sur leur position. Sur les médias sociaux, on a tendance à tout uniformiser derrière, justement, ces nouveaux types de leaders. Et peut-être qu'il nous faut prendre en compte cette réalité dans la formation universitaire, de manière à pouvoir créer des nouveaux leaders qui apportent un point de vue réfléchi, critique, démocratique, etc.
Avant de continuer, on vous propose une pause musicale. On écoute L'Homélie et son titre Interrupteur sur Radio Phoenix.
Vient d'écouter à l'instant Interrupteur de L'Homélie, vous êtes toujours sur Radio Phoenix et vous écoutez C'est pas faux. Et on repart en rencontre SMS Sciences, Médias et Société organisée par Radio Phoenix avec Hervé Lecronier et Michel Dubois pour discuter de la médiation scientifique.
Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette posture à la fois de lutter contre la désinformation scientifique mais en même temps de ne pas étouffer, comme vous évoquiez tout à l'heure, les nouvelles idées qui émergent? Comment le scientifique doit se... Quelle posture doit-il adopter pour être à une bonne frontière, entre guillemets?
Oui, alors je ne sais pas si c'est le scientifique qui va se saisir de cette question, mais en tout cas, c'est une question qui doit être saisie par les institutions, par les établissements de recherche. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, me semble-t-il, qui a démarré maintenant depuis un petit bout de temps sur la façon de transformer les modes de communication de l'institution scientifique, parfois même en situation d'urgence, de pouvoir repenser également les conditions de communication en situation d'urgence. Et il y a clairement, me semble-t-il, une oscillation entre deux tentations, c'est-à-dire retrouver finalement un sens de ce qui serait une expertise collective et donc trouver une façon de communiquer en dépersonnalisant le message à l'extrême pour faire une sorte un petit peu de point de savoir qui finalement n'engage pas telle ou telle personne, tel ou tel acteur, mais qui engage véritablement l'institution comme un collectif de recherche. Et dans ce cas-là, c'est une façon quelque part de revenir à une formule académique assez classique, mais de trouver un mode d'expression de cette expertise collective. Et puis on pourrait dire dans la polarité opposée également la tentation d'ouvrir la voie à des ambassadeurs, un petit peu des acteurs qui vont incarner la parole scientifique, qui vont être quelque sorte, qui vont avoir le crédit pour parler sur tel ou tel sujet. Et donc on est clairement sur un débat entre dépersonnalisation de la parole scientifique et personnalisation à l'extrême de la parole scientifique. Et à ce stade, j'ai l'impression que c'est plutôt un chantier ouvert, c'est-à-dire que personne n'a vraiment tranché et on est en train de tester différentes formules pour voir précisément celle qui est la plus efficace en fonction des différents formats de parole, puisque je pense effectivement, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais là encore, la parole scientifique la plus influente, en tout cas le message qui circule le plus dans la population, c'est pas encore vraiment sur les réseaux sociaux, sur d'autres médias et qui sont souvent liés aux médias traditionnels, télévision et télévision radio notamment.
Je voudrais qu'on aborde un peu les ressources que disposent les chercheurs pour faire de la médiation scientifique. Est-ce que les scientifiques sont actuellement assez armés pour faire de la médiation, de leur recherche et de leur connaissance?
Comme toujours, les questions de médiation, c'est une question de personnalité aussi. Donc, les scientifiques, c'est un terme beaucoup trop général. Il y a des gens
qui... Tout le monde n'a pas forcément envie d'en faire, c'est ça?
Il y a une question d'envie, puis il y a une question de style de personne. Il y a des gens qui ont plus de mal à parler, par exemple, et qui s'expriment beaucoup mieux par écrit. Il y a des gens qui ne veulent pas apparaître comme étant des opinions. Il y a parmi la recherche cette idée de la neutralité axiologique, qui c'est qu'on aurait des chercheurs qui n'auraient pas d'opinion. Bon, moi, je n'y crois pas trop. Je pense que le collectif de recherche finit par créer un consensus qui, lui, est au-delà des opinions. Mais chaque chercheur individuel, non. En tout cas, il doit avoir une réflexivité sur qu'est-ce qui, dans ce qu'il découvre, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il observe, dans ce qu'il analyse, dans ce qu'il écrit, tient de son opinion ou tient de ce qu'il a pu réellement voir, observer, décrire, etc., que ce soit en sciences de la nature ou en sciences humaines. Donc ça, c'est ce travail de réflexivité. Je pense qu'un des moyens, c'est dès l'entrée à la fac, tout le long de la formation universitaire, d'avoir des cours de, je dirais, d'épistémologie, le fonctionnement de la science lui-même, de déontologie et de droit. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Dans mon domaine en informatique, je m'aperçois qu'on a des gens qui sont des sysadmins, et un sysadmin, il a un pouvoir absolument énorme.
Vous entendez quoi par sysadmin?
C'est celui qui gère les machines. Donc, il a un accès qu'on dit racine, un accès route, et avec ça, il peut aller regarder tout ce que fait tout le monde sur une machine. Eh bien, ces six admins-là n'ont jamais eu de cours de déontologie, de droit, de... Donc, ça va, si, tant qu'on a affaire à des gens honnêtes, humains, qui ont juste une position technique, etc., c'est bon. Mais, voilà, c'est quand même, à mon sens, assez ennuyeux. On a des grands chercheurs qui ont passé l'immense majorité de leur carrière sans avoir d'épistémologie et qui vont souvent, quand ils deviennent plus âgés, se pencher sur les questions d'épistémologie de leur propre discipline ou plus généralement. Et il y a là, je crois, quelque chose qui participerait de cette culture scientifique dont je parlais tout à l'heure, qui serait que tout au long de la carrière universitaire, il y ait, quel que soit le domaine dans lequel on exerce, un cours transversal de déontologie, droit et épistémologie.
Oui, alors pour mettre un peu de débat, je dirais, ça me paraît vraiment une fausse bonne idée. Pourquoi ça serait une fausse bonne idée? Parce qu'on ferait venir comme de l'extérieur, un peu des experts en surplomb qui vont nous dire un petit peu, finalement, la profondeur des enjeux qui sont associés à la communication scientifique, alors qu'il me semble que parfois, il suffit même de créer simplement des conditions de débat internes dans les disciplines pour s'apercevoir que les acteurs, que les chercheurs eux-mêmes font ce travail réflexif. Et donc, pour peut-être tempérer cette mise en débat, je dirais qu'il faudrait certes faire venir sans doute des épistémologues, certes faire venir des juristes, mais aussi créer les conditions d'un dialogue avec les chercheurs eux-mêmes, parce que les chercheurs ont cette réflexivité très souvent et permettent parfois même aux philosophes qui ont tendance parfois à se détacher des conditions réelles d'exercice des métiers de la recherche, de permettre à ces philosophes de revenir parfois sur Terre et de rappeler que, notamment, qu'il y a des conditions matérielles d'exercice qui sont tout à fait importante. Et après, pour revenir sur le point de départ qui était finalement les conditions d'investissement, d'engagement des scientifiques vers le public, effectivement, il faut aussi rappeler que les scientifiques ne sont pas formés tout simplement pour ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand on est chercheur à l'INSERM ou CNRS ou qu'on est enseignant-chercheur, me semble-t-il, on a dans son parcours, que ce soit un parcours doctoral, postdoctoral ou en début de carrière, à un moment donné, une formation quelconque à la communication ou à la médiation scientifique. Donc je pense que si on voulait faire véritablement exister à l'échelle des institutions, à l'échelle des établissements, cette dimension d'activité, il faudrait non seulement la valoriser, mais également la constituer en tant que ressource et en tant que formation. Et à ce stade, je pense que voilà, ça reste totalement à faire. Même s'il y a des progrès, puisqu'on voit que maintenant, me semble-t-il, le CNRS a créé la médaille de la médiation scientifique. Et je crois qu'on en est à la deuxième édition. Donc voilà, c'est tout récent. On est sur finalement des domaines ou des questions qui sont très récentes.
Parce que est-ce qu'on peut dire qu'une étude qui n'a pas fait l'objet d'un travail de médiation derrière est finalement une étude qui, je ne vais pas dire se meurt, mais en tout cas n'est pas diffusée au grand public et reste dans un entre-soi et n'est pas, est presque comme si elle n'avait pas existé finalement, ou c'est peut-être un peu exagéré?
Alors là, ça me paraît un petit peu excessif parce que l'essentiel de la communication scientifique est tourné vers la communauté scientifique. Et donc, je pense que toutes les dimensions finalement de recherche, toutes les dimensions de travail scientifique n'ont pas nécessairement à investir les dimensions de médiation scientifique. Il y a clairement parfois des enjeux qui sont des enjeux on va dire, qui vont être technologiques et qui vont avoir des conséquences en termes de, parfois, de choix scientifiques et technologiques, et donc qui vont nécessairement avoir une forme d'incidence en termes d'investissement et d'implication, et donc ça, ce sont clairement des enjeux qui nécessitent ce travail de médiation pour qu'on puisse, après, imaginer des dispositifs un petit peu de participation et d'implication de la société par rapport à ces choix scientifiques et technologiques. Mais après, sur la recherche fondamentale, je pense que le travail, il peut être fait pour créer la curiosité, pour renforcer la curiosité autour de tels domaines. Et moi, j'ai trouvé passionnant, par exemple, d'écouter Alain Aspect, voilà, qui parlait de la physique quantique, étant sociologue. Je n'y connais.
Qui est le dernier prix Nobel de physique.
Exactement. Je regarde ça vraiment de l'extérieur, mais je trouve ça passionnant de l'écouter parce que quand il explique ces phénomènes d'intrication, quelque part, il est suffisamment bon pédagogue pour attirer mon intérêt et susciter sans doute la curiosité de gens qui ne connaissaient pas du tout ces questions-là. Est-ce que c'est la médiation, est-ce que c'est la communication? Pour moi, il est dans une situation d'interviewer en radio, il ne crée pas la médiation, il est véritablement en termes de communication scientifique, mais c'est au moins aussi important.
L'avantage d'Internet pour ça, c'est qu'aussi certains chercheurs peuvent être proactifs, c'est-à-dire ils ne sont pas interviewés, ils ne sont pas invités à parler, mais eux-mêmes ils s'expriment. J'ai l'exemple de Éric Lagadec, qui doit être président de la société d'astronomie ou d'astrophysique en France, et qui sur Twitter fait tous les jours des threads absolument passionnants sur les images les images magnifiques du télescope James Webb ou tout ça, et qui essaye d'expliquer simplement en respectant les règles de ce média social le caractère magique un peu de cette création de l'univers qui reste quand même une grande interrogation pour nous tous et en permanence. Donc, d'avoir la parole d'un astrophysicien sur ces images, c'est, je crois, une chance extraordinaire.
Oui, et là, à mon avis, tu soulignes un point qui est extrêmement important et qui est fréquemment souligné par les scientifiques avec qui on interagit, qui est très souvent, quand ils sont sollicités dans les médias et les médias traditionnels, il y a un format, un cadrage, en fait, sur lequel ils n'ont pas prise. Et donc, en se déplaçant sur de nouveaux formats, en se déplaçant sur de nouveaux médias, y compris les réseaux sociaux, c'est une liberté qui leur est accordée pour définir le cadrage, la question, parce que très souvent, les journalistes viennent avec une question auquel ils associent un message, et vous êtes là pour livrer le message. Et si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes pas un bon client. Donc ces réseaux sociaux ont aussi cette dimension un petit peu de libération, en tout cas de diversification des formats de la parole scientifique.
Autre milieu que la médiation peut toucher, c'est la médiation sur les décideurs politiques. Le gouvernement, on l'a vu pour la période de Covid, le gouvernement était aidé par un comité scientifique. Est-ce que la médiation change face à ces personnes que du grand public, ou alors non, c'est la même chose, et puis parce que c'est quand même par eux que passent les grands enjeux de notre siècle, l'écologie.
La question que vous posez, c'est quelles sont les formes d'interaction possibles entre l'expert, le scientifique et le politique, et est-ce qu'on renouvelle les formes? Alors, là, c'est un vaste débat. Moi, je dirais qu'on gagnerait sans doute à regarder ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe dans d'autres pays. Il existe, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Recherche aux États-Unis, mais il y a un office pour la science et la technologie qui est placé directement en ligne directe avec la présidence. Qui joue une fonction à la fois de conseil et qui joue à la fois une fonction un petit peu de prospective et de développement de stratégie à long terme. Je plaide, mais c'est le cas également dans un rapport récent qui a été fait sur la culture scientifique, je plaide pour qu'on puisse avoir ce type de structure en France. Il existait anciennement un haut conseil à la science et à la technologie, mais qui est resté, qui s'est fait remarquer par son silence et sa discrétion, on pourrait dire. Mais il pourrait y avoir sans doute quelque chose d'assez nouveau, d'assez important, qui puisse faire ce travail de conseil et d'information, mais également un petit peu de stratégie et d'anticipation un petit peu sur l'avenir par rapport à ces enjeux scientifiques et technologiques.
Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Hervé Lecronier, vous êtes enseignant-chercheur et éditeur chez CEF Éditions. Et Michel Dubois, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS.
Merci à vous.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Si vous souhaitez devenir ingénieur le temps d'une journée, on vous conseille grandement le club mini-fusée du Dôme. L'association Planète Science Normandie vous propose de participer à la construction d'une mini-fusée propulsée par un moteur à poudre pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres d'altitude. Chaque mercredi de décembre à 18h, vous pourrez venir construire, assembler cette fusée pour la voir décoller lors de la campagne régionale en juin 2023. Et on vous parle depuis le début de C'est pas faux des événements du Dôme, mais vous n'y êtes toujours pas allé. C'est l'occasion ce week-end. Ce samedi 3 décembre, leur équipe vous accueille pour vous montrer les coulisses du bâtiment. Durant 2 heures, un membre de l'équipe guidera vos premiers pas pour vous faire découvrir les équipements et activités du Dôme. Pour découvrir ce lieu de vie rempli de projets divers et variés, rendez-vous au Dôme ce samedi 3 décembre à 14h. Retrouvez tous les événements et les inscriptions sur le site ledome.info.
Petit conseil documentaire avec Arte qui aborde un sujet étonnant et tabou, les toilettes. Ce dernier recense notamment les innovations qui permettent au plus grand nombre de personnes d'accéder à des sanitaires décents ou qui permettent tout simplement un meilleur confort. Le tout en détricotant tous les préjugés autour des toilettes en mêlant humour et rigueur scientifique. Toilettes sans tabou, c'est un documentaire de Thierry Bérode, disponible depuis lundi sur la chaîne YouTube d'Arte. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, aujourd'hui. Et pour le reste de la semaine, pas de méridienne. Place à la programmation musicale. On souhaite à Chloé un très bon rétablissement.
Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.